femme, jusqu'au jour où une petite fille vengeresse, la très simple et très sage Denise, le domptait, le tenait à ses pieds et perdu de souffrance, tant qu'elle ne lui avait pas fait la grâce, elle si pauvre, de l'épouser au milieu de l'apothéose de son Louvre, sous la pluie d'or battante des recettes. Restaient les deux autres enfants, Serge Mouret, Désiré Mouret. Celle-ci, innocente et saine comme une jeune bête heureuse, celui-là, affiné et mystique, glissé à la prêtrise par un accident nerveux de sa race. Et il recommençait l'aventure adamique dans le paradou légendaire. Il renaissait pour aimer Albine, la posséder et la perdre au sein de la grande nature complice. Reprise ensuite par l'Église, l'éternelle guerre à la vie, luttant pour la mort de son sexe, jetant sur le corps d'Albine morte la poignée de terre de l'officiant. Alors même où Désirée, la fraternelle amie des animaux, exultait de joie parmi la fécondité chaude de sa basse-cour. Plus loin s'ouvrait une échappée de vie douce et tragique. Hélène Mouret vivait paisible avec sa fillette Jeanne sur les hauteurs de Passy, dominant Paris, l'océan humain sans bornes et sans fond, en face duquel se déroulait cette histoire douloureuse, le coup de passion d'Hélène pour un passant, un médecin amené la nuit par hasard au chevet de sa fille, la jalousie maladive de Jacques, une jalousie d'amoureuse instinctive disputant sa mère à l'amour, si ravagée déjà de passions souffrantes qu'elle mourait de la faute, prix terrible d'une heure de désir dans toute une vie sage. Pauvre chère petite morte, restée seule là-haut, sous les cyprès du muet cimetière, devant l'éternel Paris. Avec Lisa Macquart commençait la branche bâtarde. Fraîche et solide en elle, étalant la prospérité du ventre, lorsque, sur le seuil de sa charcuterie, en clair tablier, elle souriait aux halles centrales où grondait la faim d'un peuple, la bataille séculaire des gras et des maigres. Le maigre Florent, son beau-frère, exécré, traqué par les grasses poissonnières, les grasses boutiquières, et que la grasse charcutière elle-même, d'une absolue probité, mais sans pardon, faisait arrêter comme républicain en rupture de banc, convaincu qu'elle travaillait ainsi à l'heureuse digestion de tous les honnêtes champs. De cette mère naissait la plus saine, la plus humaine des filles, Pauline Quenu, la pondérée, la raisonnable, la vierge qui savait et qui acceptait la vie, d'une telle passion dans son amour des autres que, malgré la révolte de sa puberté féconde, elle donnait à une amie son fiancé Lazare, puis sauvait l'enfant du ménage désuni, devenait sa mère véritable, toujours sacrifiée, ruinée, triomphante et gaie, dans son coin de monotone solitude, en face de la grande mère, parmi tout un petit monde de souffrants qui hurlaient leur douleur et ne voulaient pas mourir. Et Gervaise Macquart arrivait avec ses quatre enfants, Gervaise bancale, jolie et travailleuse, que son amant Lantier jetait sur le pavé des faubourgs, où elle faisait la rencontre du zingueur Coupeau, le bon ouvrier, panosseur, qu'elle épousait. Si heureuse d'abord, ayant trois ouvrières dans sa boutique de blanchisseuse, coulant ensuite avec son mari à l'inévitable déchéance du milieu. Lui, peu à peu conquis par l'alcool, possédé jusqu'à la folie furieuse et à la mort, elle-même pervertie, devenue fainéante, achevée par le retour de Lantier au milieu de la tranquille ignominie d'un ménage à trois, dès lors victime pitoyable de la misère complice qui finissait de la tuer un soir, le ventre vide. Son aîné, Claude, avait le douloureux génie d'un grand peintre déséquilibré. La folie impuissante du chef-d'œuvre qu'il sentait en lui, sans que ses doigts désobéissants puce l'en faire sortir. Lutteur géant, foudroyé toujours. Martyr crucifié de l'œuvre, adorant la femme, sacrifiant sa femme, Christine, si aimante, si aimée un instant, à la femme incréée, qu'il voyait divine et que son pinceau ne pouvait dresser dans sa nudité souveraine. Passion dévorante de l'enfantement, besoin insatiable de la création, d'une détresse si affreuse quand on ne peut le satisfaire, qu'il avait fini par se pendre. Jacques, lui, apportait le crime, la tare héréditaire qui se tournait en un appétit instinctif de sang, du sang jeune et frais coulant de la poitrine ouverte d'une femme, la première venue, la passante du trottoir, abominable mal contre lequel il luttait, qu'il reprenait au cours de ses amours avec Séverine, la soumise, la sensuelle, jetée elle-même dans le frisson continu d'une tragique histoire d'assassinat. Et il la poignardait un soir de crise, furieux à la vue de sa gorge blanche, et toute cette sauvagerie de la bête galopait parmi les trains filant à grande vitesse, dans le grondement de la machine qu'il montait. La machine aimée qui le broyait un jour, débridée ensuite, sans conducteur, lancée aux désastres inconnus de l'horizon. Étienne, à son tour, chassé, perdu, arrivait au pays noir par une nuit glacée de mars, descendait dans le puits vorace, aimait la triste Catherine qu'un brutal lui volait, vivait avec les mineurs leur vie morne de misère et de basse promiscuité, jusqu'au jour où la faim, soufflant la révolte, promenait au travers de la plaine rase le peuple hurlant des misérables qui voulaient du pain dans les écroulements et les incendies, sous la menace de la troupe dont les fusils partaient tout seuls. Terrible convulsion annonçant la fin d'un monde, sans vengeur des Maheu qui se lèveraient plus tard. Alzire, morte de faim, Maheu tué d'une balle, Zacharie tué d'un coup de grisou, Catherine restée sous la terre, la Maheude survivant seule, pleurant ses morts, redescendant au fond de la mine pour gagner ses 30 sous. Pendant qu'Étienne, le chef battu de la bande, hanté des revendications futures, s'en allait par un tiède matin d'avril, en écoutant la sourde poussée du monde nouveau, dont la germination allait bientôt faire éclater la terre. Nana, dès lors, devenait la revanche, la fille poussée sur